France 24 présente
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 RFI. Bonsoir Valérie Gasse.
Bonsoir Roselyne.
Ensemble, nous recevons Roland Lescure. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député La République En Marche des Français de l'étranger de l'Amérique du Nord et porte-parole d'En Marche. Merci d'avoir accepté donc notre invitation.
Merci à vous.
Alors, la campagne vaccinale stoppée net par les doutes qui pèsent sur le vaccin AstraZeneca. Emmanuel Macron a annoncé hier qu'il le suspendait en attendant l'avis de l'Agence européenne des médicaments. Il a emboîté le pas à d'autres pays européens et surtout l'Allemagne. Alors, on entend beaucoup les critiques sur le suivisme d'Emmanuel Macron à partir du moment où c'est l'Allemagne qui a pris cette décision. En clair, est-ce que lui qui avait pris des risques, notamment en trouvant des alternatives au confinement, fallait-il qu'il cède à ce mouvement de peur, diront certains, de ce mouvement de foule ?
Alors, je pense pas qu'il a cédé. C'est pas le genre du président de la République.
Non, mais céder à la peur, je veux dire.
Non, mais au contraire, je pense que c'est la bonne question. L'objectif, il est de rassurer. Aujourd'hui, il y a 14 pays en Europe qui ont suspendu, donc la campagne de vaccination n'est pas bloquée net. On continue à vacciner avec le Pfizer notamment, mais c'est vrai que pour Astra.
Je parlais d'Astra.
On a suspendu. En attendant les études complémentaires qui vont être publiées jeudi par l'Autorité européenne de santé. Et je pense que l'objectif, au contraire, il n'est pas céder aux peurs, il est de rassurer sur le fait qu'on est capable de tout dire sur à la fois les petits effets secondaires qui ont lieu ou pas, c'est ce qu'on saura jeudi. On a eu quelques thromboses, quelques caillots, mais qui sont finalement statistiquement pas plus présents pour les gens qui sont vaccinés que pour les gens qui ne sont pas vaccinés. Mais on a eu quelques cas qui ont alerté les autorités, notamment au Danemark. Et donc, on veut vraiment s'assurer qu'il n'y a aucun risque avant de reprendre.
Oui, j'ai envie de vous dire le mal est fait. Non.
J'espère que non. Ce qui est vrai, c'est qu'il va falloir rassurer et que la barre est encore un peu plus haute après ce qu'on vit depuis 24 heures qu'elle ne l'était lundi. Mais il faut communiquer, il faut être transparent. Les politiques peuvent aider, mais c'est surtout les médecins qui, je pense, nous rassureront sur le fait que ce vaccin, je l'espère, est sans danger. N'oublions pas quand même qu'au Royaume-Uni, on a vacciné des dizaines de millions de personnes, dont un bon paquet avec AstraZeneca, et que ça n'a pas posé de problème. Globalement, on peut quand même être assez rassuré, mais on a encore besoin de l'aide totalement. Et ça,
oui, Emmanuel Macron a voulu adopter le principe de précaution, comme les Allemands, comme le disait Roselyne. Malgré tout, en 24 heures, on a eu un Premier ministre qui a dit qu'il avait confiance dans ce vaccin AstraZeneca dimanche soir. Moins de 24 heures après, on a un président qui dit finalement, on va le suspendre. Est-ce que malgré tout, sur le plan national, ça ne donne pas l'impression que l'exécutif navigue à vue et s'adapte ? Mais là, c'est vraiment de l'adaptation XXL.
Écoutez, ça fait un an qu'on a un virus XXL qui nous fait des débordements, des passements de jambes, pas tout à fait tous les jours, mais presque. Donc c'est vrai que ce virus évolue, varie énormément.
Est-ce qu'il n'aurait pas fallu être un peu plus prudent, un peu plus nuancé ? Le président de la République lui-même avait émis des doutes sur AstraZeneca, sur ce vaccin dès le début. Et puis finalement, il y a eu une opération Castex, Véran, on entendait moins le président, c'est vrai, sur Messi, il faut avoir confiance, Olivier Véran s'était fait vacciner publiquement. Est-ce que là, il n'aurait pas fallu un peu nuancer pour ne pas arriver à une contradiction en 24 heures d'affilée ?
Non, mais je pense qu'on ne peut pas gagner. Si on avait dit on ne vaccine pas avec AstraZeneca tant qu'on n'est pas totalement sûr que les petits effets dont je parlais sont sans conséquences, on aurait sans doute reproché à la France d'être en arrière de la parade. Ça fait quand même 3 mois qu'on nous dit vous vaccinez pas assez vite. Moi, je pense que la démarche qui est faite, qui est à la fois fondée sur des faits, sur des analyses scientifiques, qu'au fur et à mesure qu'on découvre ce virus, on relance de la recherche, on est transparent sur tout ce qu'on a, et on communique et on réagit en fonction des informations de manière aussi flexible et transparente que possible, c'est la bonne démarche. Mais on sait bien qu'on reste dans un monde assez incertain, qu'il faut rassurer les Françaises et les Français, et en fait l'ensemble des citoyens du monde sur la qualité de ce vaccin, et que ça, malheureusement, avec les surprises qu'on a, il faut s'adapter presque au jour le jour. Et en l'occurrence, vous avez raison, entre dimanche et lundi, l'information a évolué et il a fallu qu'on s'adapte.
On avait aussi besoin de ce vaccin pour vacciner, pour aller évidemment aussi vite que l'exécutif voulait le faire sur la campagne de vaccination. Ça a peut-être expliqué aussi
Non. Je pense qu'on a suivi les procédures extrêmement rigoureuses. Là encore, on nous reproche souvent d'être trop rigoureux, la Haute Autorité de Santé, le Haut Conseil scientifique, etc. c'est pas Emmanuel Macron, le Premier ministre, qui a décidé qu'AstraZeneca pouvait être inoculé. Ce sont des médecins réunis en conclave qui nous ont fait une recommandation qu'on a appliquée à la lettre. Ce vaccin, il est visiblement extrêmement efficace, notamment pour les pathologies graves. Vous le savez, il est conservé dans des conditions normales, ce qui permet
donc plus facile
de pouvoir
à
vacciner dans les pharmacies et dans les cabinets médicaux. Mais ça ne veut pas dire qu'on joue avec ça. Évidemment, dès qu'on a une alerte, et moi j'ai l'impression, je ne suis pas médecin, mais que cette alerte est minime et qu'on va pouvoir être rassuré. Quand on voit le nombre de cas concernés par rapport aux millions, 5 millions de vaccinés AstraZeneca en Europe, hors Royaume-Uni, on parle de 30 cas de caillots sanguins.
Oui, mais comment on va rattraper l'affaire, j'ai envie de dire? Comment on dit aux gens, ayez confiance en quelque sorte, c'était une précaution, c'était...
Il va falloir
c'était
être...
une façon d'être à la fois transparent, mais on a envie de dire ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le mal est fait, et comment dire aux gens, est-ce que ça va pas être le vaccin du pauvre, en quelque sorte, celui dont personne ne voudra?
En tout cas, ce sera probablement le mien. Moi, j'attends, j'ai pas encore l'âge, donc je fais pas partie des populations, mais il est très probable. Moi, je rentre normalement dans la fenêtre à partir de mi-mai, que je sois vacciné avec AstraZeneca, et je le ferai. C'est pas moi tout seul qui vais avec mon vaccin dans l'épaule. Je n'ai pas le torse d'Olivier Véran qui va rassurer tout le monde.
Vous voulez dire que vous êtes moins musclé?
Largement. il est impressionnant. J'ai pas tout à fait son âge non plus.
Vous pensez qu'il était content de montrer ses...
Non. Je pense que c'était malheureusement une chemise trop cintrée qui lui a pas permis de se faire vacciner en montant son nez. Ça blase. Mais blague à part, vraiment. Moi, je pense qu'on a besoin de rassurer les gens, qu'on va le faire progressivement. D'abord avec des avis scientifiques très clairs. Et donc on a
besoin rattraper le coup. Comment on rattrape le coup?
C'est ça. Donc il faut être très clair jeudi. Il faut qu'ensuite on puisse s'exprimer pour rassurer tout le monde, reprendre la campagne de vaccination qui va forcément se faire progressivement. Vous avez raison. Il y a des gens qui vont dire, moi je ne demande que ça, je veux y aller. J'en ai entendu aussi. Et d'autres qui vont dire,
il y en a qui venaient de se faire vacciner, on a vu dans des reportages, et qui n'en ont pas fait une jaunisse. Mais il y a quelque chose que j'aimerais comprendre. L'Agence européenne des médicaments a dit qu'elle rendrait ses conclusions jeudi. Ça veut dire qu'ils ont quoi, 3 jours pour enquêter sur une quinzaine de pays? Ça paraît improbable. Et en 3 jours, avoir un résultat et donner des conclusions, excusez-moi, j'ai l'impression
que c'est
de la science-fiction.
D'abord, il faut le saluer, le résultat de la coopération internationale et en l'occurrence européenne. On a énormément de données d'un côté sur des millions de vaccinés. Et on a par ailleurs 30 cas de caillots et 2 cas de thrombose. Donc c'est ces cas particuliers qui vont être examinés, ça prend pas beaucoup de temps. Donc il va y avoir des échanges entre les médecins et les autorités médicales des pays dans lesquels c'est arrivé et l'Agence européenne du médicament. On va par ailleurs travailler avec l'entreprise sur les millions de vaccins qui ont été inoculés pour bien s'assurer que le risque est pas lié à l'inoculation.
Et tout ça en 3 jours.
Ça prend pas beaucoup de temps. La question surtout, c'est est-ce qu'on aura une réponse? Et moi, j'espère évidemment qu'elle sera rassurante.
Aujourd'hui, l'Agence européenne du médicament a donné un avis, une petite mise au point intermédiaire en attendant ce délai, en attendant jeudi, pour dire qu'il y a plus de bénéfices, a priori, de ce vaccin que d'effets secondaires. Mais on examine quand même les effets secondaires. Est-ce que ça ne pose pas une question sur la procédure de certification de ces vaccins au niveau européen? Et justement, là, on a tout mis sur une campagne vaccinale européenne avec des approvisionnements gérés au niveau de l'Europe. Et là, on a l'impression que la confiance, elle risque d'être rompue pour le vaccin, pour AstraZeneca, mais aussi pour cette coordination européenne qui semble pêcher. Toutes les décisions ont été annoncées État par État. La France a suivi l'Allemagne qui a suivi le Danemark.
Non, alors, je comprends que sous-peser les bénéfices et les risques puisse apparaître un peu technocratique et un peu inhumain quand on parle d'un vaccin. Mais la réalité, c'est que les bénéfices, c'est des dizaines et des dizaines de milliers de morts qu'on évite et que les coûts, c'est éventuellement quelques cas de caillots sanguins. Donc c'est ça. C'est qu'on va, je l'espère en tout cas, sauver des dizaines de milliers de vies. On va pouvoir déconfiner le monde. C'est ça les bénéfices concrets pour tout le monde. Il faut les avoir en tête. Nos enfants vont à l'école. On va, j'espère, ouvrir les restaurants. C'est ça qui joue aujourd'hui. C'est pas.
C'est pour ça que je vous demandais cette question. Est-ce que ça valait le risque de, alors au nom effectivement de la transparence, de prendre ce risque de tout stopper
C'est une bonne erreur de communication. Non, c'est un vrai choix
politique. Est-ce qu'on pouvait s'en exonérer, quoi?
Est-ce qu'il valait mieux pas attendre 3 jours avant de suspendre et attendre
la
vie?
Écoutez, je vais vous faire de la vaccinographie fiction. Jeudi, l'Agence européenne nous dit c'est bon, vous pouvez y aller. On va nous dire fallait pas suspendre. Si jamais jeudi nous dit, l'Europe nous dit, il faudrait suspendre, on va nous dire, mais attendez, les Allemands ont suspendu et pas vous.
Oui.
Donc on peut pas gagner là-dedans.
Mais bien sûr. Mais...
L'objectif, c'est que jeudi, on ait une réponse claire, et vous avez raison, ils ont 3 jours pour la donner, et qu'ensuite, on puisse prendre des décisions extrêmement claires également.
Alors, vous avez un œil sur l'Amérique du Nord, puisque.
Un œil d'amour.
Un œil d'amour.
J'en profite pour dire bonjour à tous les Françaises et les Français d'Amérique du Nord.
Bon, ils pourront pas vous répondre, mais ça leur ira droit au cœur, j'imagine.
J'espère.
Alors, le président américain Joe Biden garde l'antienne de Donald Trump à America First, c'est-à-dire que Biden bloque les exportations de vaccins. C'est un peu Harpagon sur sa cassette. Hein. Il est vrai que les États-Unis ont financé à coups de milliards de recherches, donc c'est normal qu'ils s'attribuent et qu'ils se servent en premier. Mais ils ont de quoi vacciner une fois et demie leur population. On a le sentiment qu'il y a quand même un manque de solidarité, là, pour le coup. Mais c'est chacun pour soi. C'est la guerre, comme dirait l'autre.
Non, moi, je pense que le vrai sujet, il est plus chez AstraZeneca. Joe Biden, en fait, son prédécesseur, il a signé un contrat avec AstraZeneca et il souhaite que ce contrat soit honoré. Nous aussi, on a signé un contrat avec AstraZeneca. Pour l'instant, on a eu 25% des doses qui nous ont été livrées. Et c'est ça le problème. C'est la pression qu'on doit mettre sur AstraZeneca pour que, littéralement, il livre la marchandise. Donc, je comprends que Joe Biden, même si on aurait aimé qu'il dise le vaccin n'est pas encore autorisé chez nous, je vous en envoie, je les récupère après. Mais je comprends qu'il est dans une phase de vaccination accélérée. Je comprends aussi que la situation américaine est beaucoup plus douloureuse que chez nous, en termes de morts par habitant, en termes de victimes de cette épidémie, qui a été, il faut le dire, très mal gérée par son prédécesseur. Donc aujourd'hui, il doit à la fois apprendre aux Américains les gestes barrières et vacciner. Nous, au moins, du côté des gestes barrières, c'est fait, je dirais.
Alors, puisqu'on parle de l'Amérique du Nord, on va parler des Français de l'étranger. Il y avait une mesure qui avait fait débat et qui avait provoqué un peu leur colère. C'était la mesure sur l'obligation de fournir des motifs impérieux pour revenir en France. Il y a eu un assouplissement de cette mesure. Où en est-on exactement pour ces Français de l'étranger, pour leurs conjoints aussi qui sont parfois concernés?
Bon, d'abord, je les comprends parce que eux, comme nous et comme vous, mais encore plus que comme nous et comme vous, ils sont coincés. Il y en a beaucoup qui n'ont pas mis les pieds en France depuis un an, qui n'ont pas vu leurs enfants, leurs parents, leurs amis. Et donc, je comprends évidemment que cette limitation à la mobilité qui date pas d'hier, qui date depuis un an, les complique. C'est vrai que le gouvernement avait pris une décision pour limiter les déplacements aux motifs impérieux, qu'il a assoupli jeudi dernier et que le Conseil d'État a annulé en partie vendredi dernier. Donc aujourd'hui, un Français qui vit à l'étranger peut rentrer en France. Son conjoint ou sa conjointe, si elle est non française, ne peut pas le faire. Donc moi, j'ai engagé une conversation avec le gouvernement. J'ai même rencontré le Premier ministre à ce sujet ce matin. J'ai très bon espoir qu'on règle le problème des conjoints qui pourront du coup rentrer avec leurs conjoints françaises et français. Décision demain. Donc on va être un peu patient.
Encore 24 heures d'attente. Une petite question supplémentaire sur la vaccination.
Oui.
Comment ça se passe pour les Français de l'étranger?
Alors,
ils ont accès à cette campagne?
Oui. Alors d'abord, soit vous êtes dans un pays qui vaccine. Les Français qui sont aux États-Unis aujourd'hui, ils m'écrivent régulièrement en disant « j'ai été vacciné, d'ailleurs, est-ce que je peux rentrer en France ?» Soit vous êtes dans un pays qui ne vaccine pas ou qui vaccine peu, et là, il y a une démarche qui est entreprise avec le Quai d'Orsay pour qu'on puisse organiser des vaccinations sur place. Je pense qu'il n'y a pas un pays dans le monde qui fait ça. C'est la France et c'est son honneur d'être présente partout et de pouvoir appuyer ses concitoyens où qu'ils soient. En Amérique du Nord, ça va, ils sont vaccinés à un rythme un peu supérieur au nôtre, mais quand même au Canada et aux États-Unis.
Alors, on va en parler du confinement ou du reconfinement. Lors de sa conférence de presse hier, Emmanuel Macron a répondu à votre question, Valérie. Vous lui avez demandé si nous allions être reconfinés, plus particulièrement l'Île-de-France. Voici ce que a répondu le président de la République.
Nous aurons à prendre dans les jours qui viennent, sans doute, de nouvelles décisions et que nous aurons encore à en prendre et que j'ai demandé aussi au gouvernement de travailler pour que dans les prochains jours, nous puissions redonner de la visibilité à nos concitoyens sur le calendrier. Le maître du temps, c'est le virus, malheureusement.
Voilà, tous au pied du géant. Mais en fait, la stratégie anti-confinement, j'ai envie de dire, d'Emmanuel Macron était basée sur le fait qu'il y avait la planche de salut, c'était la vaccination, justement. Et est-ce que, du coup, cette stratégie est très mise à mal par l'affaire AstraZeneca?
Non, la stratégie vaccinale ne s'est pas effondrée hier. On a pris 3 jours de retard et vous avez raison, il va falloir redonner confiance sur l'AstraZeneca. Le Johnson arrive.
Non, mais sa stratégie, elle était vraiment...
La stratégie, elle est double. Il l'a très bien dit, d'ailleurs.
Il y a eu un basculement stratégique quand on a compris... Il y avait un couvre-feu et non pas un reconfinement, on est d'accord.
Oui, mais aussi le fait qu'à l'époque, tout le monde nous disait que ça allait exploser dans 2 semaines, le variant britannique, et que ça n'a pas explosé. Donc, il a fait un choix en disant, il faut qu'on limite les déplacements au maximum, le couvre-feu, etc. il faut qu'on vaccine et qu'on accélère la vaccination, ce qui s'est quand même passé, et il faut qu'on commence à préparer la suite. C'est-à-dire qu'on gère le tunnel, mais qu'on commence aussi à gérer la sortie du tunnel.
Il y a le double message, on l'a bien compris depuis une dizaine de jours.
C'est
déjà.
Ça, c'est à court terme, on est solide, on serre la ceinture et c'est difficile, mais on voit de la lumière au bout du tunnel, et ça, il faut la préparer. Si on dit, vous pouvez sortir, mais attendez, il nous faut 3 jours de plus pour savoir comment ouvrir les restaurants ou les cinémas, là, c'est
pas... Oui, enfin, quand Gabriel Attal dit, pardon Valérie, quand Gabriel Attal dit, on va retrouver une vie normale, quasi normale, mi-avril, il est un peu...
Je pense que c'est pas tout à fait les mots qu'il a dit, il a parlé d'espoir, mais c'est vrai qu'on navigue entre un peu l'angoisse, il faut le reconnaître, la lassitude à court terme et l'espoir. Et c'est ces deux-là. Ces deux émotions
mais
qu'il faut gérer.
À court terme,
évidemment.
Roland Lescure, il y a quand même la lassitude et il y a le risque de reconfinement en Île-de-France. On a dépassé ce seuil des 400 cas de contamination pour 100 000 habitants. Est-ce qu'on peut continuer à ne pas confiner en Île-de-France ?
Alors, il y a un conseil de défense. Mercredi matin, le Premier ministre a dit qu'il échangerait avec les parlementaires dans la foulée. Et donc, il y aura sans doute des décisions à prendre. Le président l'a dit. On l'a vu il y a quelques semaines, on n'annonce pas les décisions avant qu'elles soient prises, parce qu'en général, on se trompe.
Elles sont peut-être même déjà pas prises.
Non, elles ne sont pas prises encore. Je pense que vraiment, on dit souvent, ils décident tout seuls. Ils décident tout seuls, mais ils consultent tout le monde. Et donc, mercredi, c'est vrai qu'il y aura un conseil de défense, que tout le monde va s'exprimer, que tous les faits sont sur la table, et qui prendra une décision comme un bon leader doit le faire en connaissance de cause.
Quand vous avez remarqué, il a dit, vous avez d'ailleurs relevé, le maître du temps, c'est le virus, c'est le patron en ce moment. Finalement, ce virus nous oblige effectivement à nous réinventer, mais aussi à avoir de l'humilité. Et j'imagine pour les hommes politiques, l'humilité, c'est pas toujours la première des qualités qu'on met en avant.
Oui, je pense qu'il faut rester effectivement extrêmement humble en général, et particulièrement devant ce virus. Moi, je trouve que, notamment d'ailleurs, parce qu'on a plus de femmes à l'Assemblée, on a aujourd'hui, dans notre groupe, près de 50% de femmes et 40% de femmes à l'Assemblée, l'humilité a fait un pas de géant en politique française. Mais il y a encore quelques petits pas.
Emmanuel Macron, il a fait un pas de géant dans l'humilité. Lui qui se déclarait maître des horloges au début du quinquennat, le virus lui, l'a obligé à changer.
Mais le virus nous a tous conduits à changer, lui aussi.
Lui le premier.
Lui le premier, lui comme nous tous. Lui, effectivement, il doit prendre des décisions extrêmement engageante pour la nation, fondée sur une connaissance, et il l'a, très complète, des enjeux sanitaires, économiques, sociaux et psychologiques. Et je pense qu'effectivement, il a changé. On voit bien d'ailleurs que son expression a changé par rapport à il y a un an. Il est aujourd'hui vraiment en phase, je pense, avec les craintes et les angoisses des uns et des autres.
Merci Roland Lescure d'avoir été notre invité ce soir.
Merci à vous.
Merci. Merci aussi à Charlotte Urien-Tomaca et à Camille Déhan et à toute l'équipe technique pour avoir préparé, réalisé cette émission. Et à très vite sur France 24. Merci et à bientôt.
Merci.
Ce mardi, vivez sur RFI la soirée spéciale Ligue des